Radio Okapi. Journal présenté par Jacques-Yves Molima.
L'éradication de l'insécurité dans l'est de la RDC est la condition nécessaire pour promouvoir le développement à travers les échanges commerciaux entre les pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. C'est ce qu'a dit hier le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde à la clôture du 22e sommet des chefs d'État de l'EAC. Vente aux enchères des blocs pétroliers et gaziers de la République démocratique du Congo, menace ou non de l'environnement, vous suivrez dans ce journal les avis d'un conseiller au ministère des hydrocarbures et un défenseur de l'environnement. Enfin, l'Institut supérieur des sciences de santé de Kalemi, qui appartient à la Croix-Rouge, a obtenu son agrément. Désormais, leurs diplômes seront homologués. Pour en parler, nous recevons dans cette édition Denis Abedi. Il est le directeur général de cet établissement. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mademoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Jean-Michel Samalukonde plaide pour l'éradication de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour lui, c'est la condition nécessaire pour promouvoir le développement à travers les échanges commerciaux entre les pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le Premier ministre l'a dit hier jeudi dans un discours devant les chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est réunis à Arusha en Tanzanie dans le cadre du 22e sommet ordinaire de cette organisation. Les détails avec Pelé Kipelamondo.
Les marchés communs dans le cadre du projet de libre-échange que veut l'EAC étaient le thème central de ces sommets. Selon la presse de la primature, les chefs d'État présents ont tous plaidé pour la promotion de la libre-échange des biens et des personnes au sein de cette organisation afin de favoriser les échanges commerciaux. Le Premier ministre Samalukonde, qui a représenté le président Félix Tshisekedi à ses assises, a cette occasion interpellé les participants sur le fait que l'insécurité que connaît la RDC est un frein à la promotion de la libre circulation des biens et des personnes dans la région. C'est important de mentionner que lorsqu'on parle de la libre circulation des biens et des personnes, on parle aussi des questions sécuritaires, parce qu'il faut assurer la sécurité de ces biens et de ces personnes, a-t-il indiqué. Et d'ajouter, je le cite, « Ici, nous, la RDC, nous réalisons que l'insécurité est un frein à ces échanges qui pourraient s'accroître si jamais dans des zones comme l'Est de la République démocratique du Congo, nous avons plus de paix. » Fin de citation. Ce n'est un secret pour personne que nous nous efforçons de nous battre pour arriver à résoudre ces problèmes sécuritaires causés par des groupes terroristes qui parfois trouvent leurs bases arrière ou même certains appuis au sein des pays membres de notre organisation, a-t-il renchéri.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, les deux jeunes mineurs arrêtés dimanche dernier dans la zone de la frontière entre la RDC et le Rwanda sont libres. Ils ont été relâchés mercredi dernier et sont rentrés en RDC par la grande barrière, indique la société civile de Nyiragongo. Selon cette source, ces enfants ont rejoint leur famille vers 16h dans le village Kisheke, groupement qui bâtit en territoire de Nyiragongo. Aucun autre détail n'a été donné sur les formalités de leur libération. Rappelons que Bienvenue Zira Chucha et Eric Ndakavuro, 15 et 16 ans, ont été appréhendés par des militaires rwandais alors qu'ils paissaient leurs chèvres avec d'autres jeunes dans un pâturage situé dans la zone frontalière. À Beni, lancement officiel hier jeudi du projet Nashiriki kwa Masikilizano. Entendez, participe à la réconciliation. Ce projet de 18 mois est développé en Ituri et en ville et territoire de Beni au Nord Kivu. Objectif, la résolution des conflits et la restauration de l'autorité de l'État. Marc Marofimbo nous en dit plus.
C'est un projet mis en œuvre en concertation par quatre organisations internationales, dont le Conseil norvégien pour les réfugiés, Alerte internationale, Search for Common Ground et Justice Plus. L'objectif clé est de contribuer aux efforts de la consolidation de la paix et à la stabilisation dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu grâce à la cohésion sociale dans les communautés affectées par les conflits, comme l'explique ici Francis Albert Kamguem, directeur de ces concertations.
Ce projet Nashiri qui s'inscrit en droite ligne de la stratégie nationale de ce programme DDRCS et ses activités vont contribuer à renforcer la collaboration entre les autorités et les membres des communautés et à promouvoir la promotion des solutions durables aux personnes déplacées victimes des conflits.
Un projet qui tombe à point nommé car la paix est une affaire de tous, a indiqué le commissaire supérieur principal Lambert Chingoma, représentant du maire à cette activité.
La consolidation de la paix et la stabilisation dans cette zone restent la préoccupation de nous tous. C'est pourquoi il est temps d'impliquer tout le monde dans la recherche de la paix.
Financé par l'Union européenne pour une durée de 18 18 mois. Ce projet vise également à apporter des solutions durables pour les personnes affectées par divers déplacements à la suite des affrontements des groupes armés dans ces deux provinces et en territoire de Beni particulièrement. Ce projet sera mis en œuvre dans 7 zones de santé. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, le gouvernement congolais a décidé lundi 18 juillet dernier de la mise en vente aux enchères de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Selon le ministre des Hydrocarbures, des appels d'offres pour l'attribution de droits vont être lancés le 28 juillet prochain. En réaction, les ONG de défense de l'environnement, dont Greenpeace, s'y opposent en alertant au sujet de ses conséquences catastrophiques sur les communautés locales, la biodiversité et le climat mondial. Cette question a fait l'objet de l'émission Dialogue entre Congolais de Radio Okapi hier jeudi. À la question de savoir si le gouvernement congolais comprenait les craintes exprimées par les ONG de défense de l'environnement, Tony Tchermani, conseiller technique aval du ministère des Hydrocarbures, qui a participé à cette émission, affirmait que l'environnement ne sera pas affecté lors de l'exécution de ces projets. On l'écoute.
Son Excellence Monsieur Didier Boudimbou, le ministre des Hydrocarbures, était clair là-dessus. Personne ne touchera aux tourbières. Et même les découpages, les redécoupages, la revérification des coordonnées des blocs dans la cuvette centrale ont été, une fois de plus, recontrôlés pour s'assurer que ces tourbières ne peuvent pas être touchées. Et même alors, l'autre fois, on a encore expliqué que avant tout travaux, début des travaux sur le terrain, il y a ce qu'on appelle étape de la matérialisation. Ça veut dire qu'il y aura des centres sur le terrain, des géologues du ministère et la société qui va gagner les appels d'offres pour aller sur le terrain, se rendre compte que la partie des aires protégées, notamment les tourbières, ne fait pas partie des blocs dans lesquels les travaux vont commencer. Et les travaux de matérialisation consistent à mettre des bornages physiques sur le terrain et redéfinir encore ou recommuniquer les coordonnées définitives de ces blocs-là. Donc ça, c'est une question sur laquelle le gouvernement ne va pas transiger, parce que nous sommes respectueux nous-mêmes de par la législation des hydrocarbures, des normes environnementales. Donc ça, c'est une question sur laquelle il n'y a pas de polémique là-dessus.
En réaction, Blaise Moudodossi, coordonnateur de l'ONG Action pour la promotion et la protection de peuples et espèces menacées en RDC, un autre intervenant dans cette émission, soutient le contraire. Selon lui, chercher à exploiter au même moment une trentaine de blocs aura inévitablement un impact négatif sur l'environnement. On l'écoute.
On s'est beaucoup posé des questions au niveau de la société civile et la première question c'était est-ce que vraiment ça vaut la peine d'aller sur une vingtaine de blocs pétroliers au même moment. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre position, c'était que on peut y aller progressivement, en évitant vraiment d'aller déranger les tourbières et aussi d'aller déranger les aires protégées. Et peut-être commencer par les blocs maritimes qui sont là et aller progressivement. Déjà, le vrai problème aujourd'hui, c'est que les blocs là présentés, il y a des superpositions. Et je crois que les corrections devraient être apportées avant même d'aller vers les marchés pour s'assurer qu'il n'y aura pas de conflit lors de la vente. Tout en regardant aussi beaucoup plus d'autres questions que vous aviez posées, hein, notamment liées à la transparence, notamment liées aussi à la gouvernance.
Ce dossier nous a été proposé par Guy Maté. Autre nouvelle, au Kassai Central, après le lancement par Anser du projet de construction des centrales solaires et micro-barrages dans le Kassai, plusieurs observateurs se posent des questions sur la situation du barrage hydroélectrique de Katende. Une grande partie du matériel reste bloquée à Lubumbashi, alors qu'il devait être acheminé sur le site pour la reprise des travaux, s'indignent également les jeunes de la province. Ils estiment que le projet Katende a été jeté dans les oubliettes. François Kadima.
Les travaux sur le barrage hydroélectrique de Katende sont aux arrêts depuis 2017 à la suite des violences liées au phénomène Kamuina-Sapo. Les Indiens de l'entreprise Angélique, qui étaient sur les sites, avaient quitté. En dehors de matériel abandonné sur les sites, la grande partie se trouvant à Lubumbashi est restée bloquée. L'ouvrage est réalisé grâce à un financement du gouvernement congolais indien. Après le passage du ministre des Ressources hydrauliques au début de l'année dernière, il avait indiqué que le gouvernement congolais avait décidé d'engager des discussions avec la partie indienne pour la reprise de travaux. La même année, deux rotations de matériel bloqué à Lubumbashi ont été observées en direction du site du barrage Katende à Chimbulu. Le chef de l'État en tournée dans l'espace Kassai y est également passé pour évaluer la situation avec promesse que les travaux devaient redémarrer. La situation est restée la même une grande partie du matériel étant toujours bloqué à Lubumbashi dans les entrepôts de la SNCC. Des sources au sein de la société de chemin de fer rapportent que les frais qui devaient être payés par la partie indienne pour le déplacement de ces matériels ont été versés. La SNCC est prête à transporter les matériels jusqu'à destination, mais il se fait que d'après les Indiens, les conteneurs de matériel ne sont pas assurés. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, aider les femmes qui exercent le petit commerce transfrontalier à reprendre des activités avec leurs propres capitaux, c'est l'objectif d'un appui financier qui est destiné à plus de 3000 femmes du Nord et Sud Kivu. Ces femmes vulnérables qui vivent de l'économie informelle ont été les plus impactées par les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. C'est l'organisation Initiative pour la paix et le droit de l'homme, IPIS, qui a initié ces projets pour accompagner cette catégorie des personnes. Un chèque de 360 000 dollars américains a été remis symboliquement aux premiers bénéficiaires la semaine dernière devant les autorités provinciales du Nord Kivu à Goma. Sifa Maguru pour les détails.
Elles sont 360 femmes, soit 10% des bénéficiaires de ce projet qui ont reçu un montant de 100 dollars chacune comme premier palier. C'est pour leur permettre de reconstituer leurs capitaux propres et reprendre les activités. Ces femmes exercent entre les villes de Goma et Gisenyi au Rwanda, côté Nord Kivu, ainsi que leurs consoeurs de Kamanyola au Sud Kivu qui traversent vers le Burundi. Explication avec Albert Kokolomami, directeur du programme IPC.
Nous pensons que cet argent va vraiment produire les effets escomptés parce que nous l'avons donné comme un fonds de relève.
Cet appui tombe à point nommé, a expliqué Kahambu Mangwangwa, l'une des bénéficiaires. Je vends de la farine et les haricots. Je remercie IPIS d'avoir pensé à nous pendant que nous étions frappés par le Covid-19. On n'arrivait plus à traverser la frontière et notre commerce a beaucoup baissé. On nous a donné de l'argent. Nous avons reçu 99 dollars, soit 100 dollars. Ça nous aide beaucoup et nous avons été formés sur comment gérer cet argent. Ça aide nos familles à faire étudier nos enfants et ceux qui sont locataires vont pouvoir payer les loyers. Notez que IPC accompagne aussi techniquement ses commerçantes dans plusieurs domaines, notamment commercial, de la santé et du droit. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Entre-temps, le développement de la RDC est possible, mais il dépend de la décision des Congolais de pratiquer la vertu et les soucis de l'intérêt général plutôt que l'individualisme. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus les professeurs d'université et autres intellectuels congolais réunis au sein d'une organisation dénommée RAREC. C'est après 2 jours d'échange dans un colloque organisé à cet effet. Ce colloque de 2 jours propose une bonne dizaine de recommandations qui devraient permettre à la RDC de lancer une nouvelle culture nationale de développement. Quelques détails avec Tona Madimba.
Dans un ordre pas forcément hiérarchique, le colloque de RAREC propose parmi les recommandations de placer l'éthique et la morale au sommet des qualités requises de chaque candidat qui sollicite tout mandat politique à quelque niveau que ce soit. Pour cette organisation, politique sans éthique n'est que ruine de la société. Autre recommandation, revaloriser l'éducation à tous les niveaux par une allocation effective des ressources humaines, financières et matérielles appropriées pour que l'enseignement soit effectivement obligatoire et gratuit à tous les niveaux afin de former efficacement chaque jeune Congolaise et Congolais pour en faire des pionniers qui sont requis pour transformer le pays en Eldorado africain. Le colloque encourage aussi l'opérationnalisation du service militaire obligatoire afin de promouvoir l'égalité de tous les citoyens face aux exigences de la protection de la souveraineté de la RDC et assurer efficacement la défense de l'intégrité du territoire national. RAREC recommande la transparence intégrale de tout le processus électoral, élimination de la corruption durant l'exercice de mandats politiques, la rémunération des élus et celle de tous les mandataires publics comprendra 2 parties en nature et 1 partie en numéraire, consolider la notion de rêve congolais comme outil et instrument de mobilisation des Congolais afin d'œuvrer ensemble pour transformer la RDC en Eldorado africain.
La divagation des éléphants dans plusieurs coins du pays avec tous les dégâts humains et environnementaux qui s'en suivent relance la problématique de la cohabitation entre l'homme et ses pachydermes qui est classée parmi les espèces protégées. Radio Kapi a initié une série de reportages sur cette question. Dans ce premier numéro, notre collègue Jean Gandou plante les décors en faisant un état des lieux de la situation de la divagation des éléphants dans certaines provinces du pays.
Depuis le début de cette année, la présence des éléphants en dehors de leur milieu naturel a été signalée à plusieurs endroits. C'est notamment dans le nord Kivu, où le 15 mai dernier, 12 champs ont été ravagés par des éléphants venus du parc de Virunga. Ce sont les champs de maïs, de bananes, de papayes, de haricots, de manioc et autres cultures. Ces champs sont plus précisément au village Masambo, dans le territoire de Beni, sur une étendue de 2 km². Dans la province du Haut-Uele, les éléphants ont détruit les champs de maïs, de riz, de manioc et d'arachide. Ces faits se sont produits dans les localités de Aliki, Yanguma, Bindi et Ndobani. Ils provenaient du parc de la Garamba. Dans le Haut-Lomami, la divagation des éléphants est très récurrente. Ils proviennent du parc de Lupemba et se dirigent souvent dans les territoires de Bukama et de Malembankulu. À leur passage, ils détruisent tout, par moments ils tuent. Les villages où ils sont souvent signalés sont notamment Kapamai, Kazele, Kabanza, Kimba, Kabeloué et Toalé. Là où ils se présentent, les activités champêtres sont suspendues car les agriculteurs refusent de se rendre au champ de peur de se faire tuer. La dévastation des champs a pour conséquence l'appauvrissement des familles, la famine et la non-scolarisation des enfants faute des moyens par les parents. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
10 jours après l'arrestation des 49 soldats ivoiriens au Mali, l'opposition et la société civile sortent de leur silence et critiquent la mauvaise gestion de l'affaire par les autorités ivoiriennes et lui demandent davantage de transparence dans cette affaire pour le moins confuse. Et puis, fin de mission pour le général Laurent Michon, commandant de la force Barkhane. Après une tournée dans la région ouest africaine, l'officier français a animé une conférence de presse à Ouagadougou où il a fait le point sur l'opération de désengagement en cours au Mali et la nouvelle articulation au Niger. D'ici la fin du mois d'août, les militaires français passeront de 4 000 à 2 500 hommes environ.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est Denis Abedi, directeur général de l'Institut supérieur des sciences des santé de Kalemi, qui appartient à la Croix-Rouge. Cet institut a obtenu son agrément. Désormais, leurs diplômes seront homologués. Il s'entretient ici avec notre permanent Kalemi, Paulin Mounanga. Suivez.
Monsieur le directeur général Denis Abedi Mouemenoa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Votre institution vient d'être admise officiellement à l'agrément. Qu'est-ce qui change avec cet agrément-là?
Nous avons eu un premier arrêté, c'est l'autorisation de fonctionnement. Et aujourd'hui, on vient de mettre fin à toutes les spéculations. Nous avons l'arrêté ministériel numéro 160 portant admission à l'agrément. Qu'est-ce qui change? C'est l'officialisation. Aujourd'hui, l'institution est reconnue au niveau mondial. C'est-à-dire les diplômes que nous aurons à produire sont les diplômes homologués. Et comprenez, nous sommes gérés par le ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Il y a des conditions, il y a des obligations. C'est que l'ISS Croix-Rouge a été soumis à toutes ces obligations. Nous avons accueilli une délégation venue de Kinshasa pour une étude de viabilité et cette équipe a fait rapport et aujourd'hui nous avons les documents officiels qui attestent que l'ISS Croix-Rouge Tanganyika est digne d'être intégré dans les institutions supérieures d'enseignement supérieur universitaire du Congo en général.
Et quelles sont les filières qui sont organisées au sein de votre Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge du Tanganyika?
Conformément à l'arrêté que nous avons, nous devons d'abord signaler, nous organisons et le premier et le second cycle. L'arrêté nous donne ses prérogatives. C'est-à-dire, nous avons 9 filières, mais présentement, 5 sont opérationnelles. Ceux qui sont loin ou près peuvent comprendre que nous avons anesthésie et réanimation. Nous avons EASI, enseignement et administration en soins infirmiers. Nous avons la gestion des institutions de santé, hygiène, sécurité au travail et la gestion de l'environnement. Ça, c'est une particularité. Partout dans la province du Tanganyika, aucune autre institution qui organise cette filière-là.
Donc l'hygiène et la cette particularité.
Le travail, oui, et la gestion de l'environnement, c'est une particularité.
Pourquoi c'est une particularité? Parce que ça ne se trouve qu'ici.
Nulle part ailleurs qu'à la Croix-Rouge, messieurs les journalistes. C'est que c'est ça la particularité et je vous assure, cette année, les enfants ont compris, ils sont nombreux dans cette filière-là. Nous avons aussi nutrition et diététique, nous avons santé communautaire, sciences infirmières, options hospitalières, nous avons sage-femme et enfin nous avons technique de laboratoire. Ce sont là les filières que nous organisons chez nous.
Vous vous organisez aussi l'anesthésie et la réanimation. Est-ce que dans ces filières, il y a des candidats?
Non, c'est ça le mal. Et c'est comme si la province n'a pas encore compris. Nous avons toutes ces filières et malheureusement, il n'y a pas de candidats.
Pourquoi?
On ne sait pas. Alors que nous passons dans les médias, on essaie de parler aux gens, aux jeunes diplômés, les futurs diplômés. Et on fait même une ronde dans les institutions pour informer. Et là, on explique même l'avantage pour chaque filière que nous organisons chez nous.
Et les étudiants proviennent des différents territoires du Tanganyika ou bien ce sont seulement ceux de Kalemi?
Par rapport à la provenance, les étudiants nous viennent de tous les coins. Nous avons les étudiants du Maniema qui sont avec nous. Nous avons les étudiants de Olomami. Et nous avons les étudiants du nord et sud du Kivu. Et nous avons les étudiants les six territoires de la province du Tanganyika sont là. L'année passée, il y a deux des Manono qui ont terminé. Et nous sommes heureux parce qu'ils ont été récupérés à la zone de santé des Manono comme administrateurs gestionnaires.
Monsieur Denis Abedi, je vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.